une saison au théâtre. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
(1954-1962), c'est la durée de la guerre d'Algérie. En 1958, le général de Gaulle est rappelé à l'Élysée. Il doit trouver une issue au conflit. Pour avoir les mains libres, il inaugure la 5e République. À la guerre d'Algérie, restée longtemps piégée, amputée, déformée dans les impensés de la mémoire française, ses réécritures spécieuses ou ses amnésies volontaires, s'ajoute aussi cette bascule de la France vers les pleins pouvoirs de l'exécutif. Comment faire le récit de ce qui a eu lieu, ce qui a été dit, ce qui a été tu. Des pièces de théâtre ont éclairé l'obscurité. On a lu et vu sur le sujet des textes de Jean Magnan, Mohamed Kassimi, Katab Yassine ou même Bernard-Marie Koltès. S'ajoute désormais à cette liste non exhaustive le spectacle de Julie Bertin et Jade Herbulot de la compagnie Birgit Ensemble. Toutes deux ont écrit et mettent en scène Les Oubliés, Alger, Paris. Cette représentation est sur la scène du Vieux Colombier à Paris, l'une des premières tentatives d'écrire un récit fictif mais documenté ou documentaire sur la guerre d'Algérie. Nous ouvrons donc avec Julie Bertin et Jade Herbulot à sa lettre R comme récit, notre encyclopédie vivante. Elle se dirigera dans ces dernières minutes vers la scène nationale de Forbach. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici.
معرفتك انا ما عرفتينك يا ديك المحبه قايمه تسافياش زوج خطوات بينك وبيني كلي حتى حاجه ما صرنا.
Bonjour Julie Bertin.
Bonjour.
Bonjour Jade Herbulot.
Bonjour.
Qu'avez-vous compris de ce qu'a compris le général de Gaulle qui s'adressait à Alger à la foule en octobre 1958? Extrait qu'on vient d'entendre, extrait célèbre.
Alors ce qu'on a compris, c'est que Charles de Gaulle était évidemment un grand stratège, ça on le savait tous, et que donc en grand politicien et en grand stratège militaire, il a fait le choix à ce moment-là de rester flou. Il tient ce discours sur la place du Forum à Alger en juin 58, alors que l'armée française et les Français d'Algérie réclament son retour au pouvoir, et il sent bien qu'il faut là essayer de tempérer, de gagner du temps, pour voir justement s'il allait être possible ou pas de maintenir l'Algérie française. Et donc plutôt que de clarifier sa position tout de suite, il décide de gagner du temps et donc de dire cette phrase « je vous ai compris » qui ne dit finalement pas grand-chose de sa position.
Et vous avez compris les tenants et les aboutissants de ce conflit, vous qui vous êtes plongé là-dedans, de la même manière que vous êtes précédemment plongé dans le conflit serbo-croate ou dans la détresse financière de la Grèce sur la chute du mur de Berlin. Je veux dire par là que vous avez pour habitude d'aller regarder de près ce qu'il en est des conflits du XXe siècle proches de l'Europe et proches de la France. Alors est-ce que vous êtes plus au clair, vous, sur la guerre d'Algérie et la position française par rapport à la guerre d'Algérie? Jade Herbulot.
Alors je pense qu'on n'a pas tout saisi, tout compris, parce que déjà on n'a pas pu tout lire, parce qu'il y a une masse documentaire énorme sur la guerre d'Algérie, que ça soit des ouvrages historiques, sociologiques, des documentaires, des reportages, des témoignages. Mais en effet, ce qu'on a compris, c'est que la Ve République se fonde en pleine guerre civile, que l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle ressemble vraiment à un coup d'État, qu'à l'époque, et ça on ne le savait pas du tout, même sa prise du pouvoir, le moment où l'Assemblée nationale lui délègue les pleins pouvoirs, beaucoup faisaient partie de l'Assemblée nationale en 40 et ont assisté à la délégation des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et en effet, on le dit dans le spectacle, beaucoup à l'époque dans les rangs de l'opposition ont peur de lui déléguer les pleins pouvoirs car ils ne veulent pas reproduire à 1940. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout en tête, qu'on ne savait pas du tout. C'est beaucoup grâce à un livre de Gray Anderson qui s'appelle « La guerre civile en France 1958-1962 » qui a été édité aux éditions de La Fabrique en octobre 2018 qu'on a compris ça, qu'on a compris ce lien très étroit entre la fondation de la Ve République et le contexte de la guerre d'Algérie. Et que ce pouvoir exécutif qu'a inventé, construit le général de Gaulle a pu prendre naissance grâce à ce contexte.
Au fond, il me semble que le spectacle Les Oubliés à Alger Paris, qu'on peut donc voir, je le rappelle, sur la scène du Vieux Colombier dans le cadre de la Comédie Française à Paris, est un spectacle à trois dimensions. Il y a une dimension fictive que vous avez volontairement déployée et inventée, qui est donc l'histoire d'un mariage entre Karim, fils de père algérien et de mère française, et Alice. Et à partir de l'histoire de ce mariage, ça démarre par le mariage, va suivre toute une remontée dans les souvenirs que vous allez nourrir à coup d'images vidéo d'archives, donc images beaucoup du général de Gaulle dans ses différentes allocutions. Il y a ça, il y a le mariage de ces jeunes gens, il y a l'histoire de la guerre d'Algérie, et il y a cette histoire de la France qui, en 58, passe d'un régime à un autre régime, au fond. Julie Bertin.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que ce qu'on a aussi compris dans nos recherches, c'est que Charles de Gaulle avait finalement construit un récit qui a accompagné sa prise de pouvoir. Et ça a été sa force, c'est-à-dire que de comprendre que ce pouvoir qui devenait en 58 un pouvoir très incarné, très personnalisé, il fallait l'accompagner d'un roman national. Et c'est ce qui nous intéressait, c'est pour ça qu'on a voulu avoir recours à cette fiction du mariage, c'est-à-dire comprendre comment en 2019, le récit façonné par De Gaulle et par son gouvernement a encore un effet dans nos mémoires, dans nos inconscients, dans nos discours, dans nos corps. Donc ce qui nous intéressait là, c'était de comprendre quelles étaient ces traces-là qui perduraient. Puisqu'on le sent bien qu'il y a encore énormément de crispations autour de cette histoire-là, qu'il est encore très difficile aujourd'hui de s'attaquer à ces figures politiques, et qui plus est à la figure de De Gaulle, qui reste encore un monstre sacré. Et finalement, on se dit, il y a peut-être que les jeunes générations qui peuvent, à un moment, se réemparer de cette histoire-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas là de raconter l'histoire de la guerre d'Algérie. Vous l'avez dit tout à l'heure, on commence en 58 et non pas en 54. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est l'articulation entre l'histoire de cette Ve République, qui est aujourd'hui, on le voit bien, depuis plus d'un mois, énormément remise en question. On se demande depuis Nuit debout s'il ne faut pas enterrer cette Ve République et basculer vers une nouvelle constitution. Donc c'est finalement ça qui nous intéressait. Et en s'intéressant à l'histoire de la Ve République, on s'est rendu compte qu'il fallait finalement s'intéresser à ses origines. Puisque, encore une fois, peut-être que c'est très clair pour les générations qui nous précèdent, mais à aucun moment, nous, on nous a raconté que la Ve était née en pleine guerre civile. Et pourtant, c'est un fait.
Vous le dites, Julie Bertin et Jader Bulot, il s'agissait d'aller observer quels étaient les tenants et les aboutissants de ce roman national construit par Charles de Gaulle. Ce qui suppose que vous-même vous entrez dans la fabrication d'un récit. Pour ouvrir cette émission qui va être suivie dans quelques secondes d'autres archives, je voudrais commencer par la voix de Jean-Paul Sartre.
Être n'importe qui n'est pas simplement une réalité, c'est aussi une tâche. C'est-à-dire refuser tous les traits distinctifs pour pouvoir parler au nom de tout le monde. Et on ne peut parler au nom de tout le monde que si on est tout le monde. Pas chercher, à la manière de tant de pauvres de mes confrères, le surhomme, mais au contraire, être le plus homme possible, c'est-à-dire le plus semblable aux autres. Donc il s'agit en effet d'une tâche. L'activité d'écrire est une activité absolument liée à la condition humaine. C'est l'usage du langage pour fixer la vie. C'est donc une chose essentielle.
Voilà le point de vue de l'intellectuel sur celui qui doit prendre la parole au nom de tout le monde et qui pour cela doit être tout le monde. Quelle est la position de l'artiste par rapport à ça, des artistes que vous êtes, Jade Herbulot?
C'est vrai que quand on travaille avec Julie sur les questions historiques, on a très bien en tête que nous ne sommes pas historiennes. Donc nous n'avons pas la prétention d'être aussi exactes qu'un spécialiste qui aurait étudié la question pendant 15 ans. Et c'était le cas pour la guerre d'Algérie. Comme le disait Julie tout à l'heure, nous n'en connaissions pas les tenants et les aboutissants avant de nous plonger dans cette matière documentaire historique. Et donc, je pense que cela se ressent dans l'écriture du spectacle, c'est-à-dire qu'on se situe, c'est vrai, comme le dit Sartre, comme tout le monde. En tout cas, le présupposé, c'est que Cette histoire, on la connaît par fragments, par bribes, par des discours qui ne sont pas pleins, dans lesquels il y a des points de suspension, et c'est notre point de départ pour écrire. Donc en effet, dans le spectacle, il persiste toujours une visée didactique, puisque je pense que c'est la dynamique de notre propre mouvement de compréhension au moment de nos recherches et de l'écriture. Donc oui, il y a une portée didactique dans nos spectacles qui est simplement le résultat de ce mouvement. Et je pense que précisément, ça n'est pas rigide. Je ne crois pas qu'on produit un discours qui est une vérité énoncée une fois pour toutes. Je ne crois pas qu'on écrive depuis le haut d'une montagne en surplomb. Et en ce sens, comme dit Sartre dans la citation, on ne se situe pas comme surhomme ou surfemme.
Le terme de rapatrié ne s'applique pas aux harkis, d'après moi. Moi, je dirais expatrié. Je suis d'origine kabyle, je suis né là-bas, ma terre natale est là-bas. Je suis obligé de vivre ici parce que j'ai fait un choix. Hein. Là, le choix que j'ai fait, il est mauvais. Hein. Ça, je peux vous garantir que ce qui se passe depuis 35 ans, j'aurais pas dû rester dans l'armée française, théoriquement. On peut nous reprocher d'avoir fait du mal en Algérie, c'est-à-dire d'avoir combattu nos collègues. Mais on ne peut pas nous reprocher d'avoir fait du mal à la France. On n'a jamais fait du mal à la France. Et on n'est pas à genoux en train de quémander quelque chose. On a fait notre boulot. On doit nous considérer comme des citoyens à part entière. Et donc, si nous faisons partie de la communauté nationale, on doit être considéré comme tous les métropolitains. Il n'y a pas de raison.
On vient d'entendre, Jade Herbulot et Julie Bertin, Georges Kerouan, c'est un harki qui témoigne. Si je voulais vous faire entendre cette voix, c'est parce que, sauf erreur de ma part, il n'est pas question de les harkis dans Les Oubliés, Paris-Alger. Ce qui m'a, sur le coup, surprise, mais vous écoutant, je trouve effectivement que c'est assez légitime, puisque vous revendiquez le fait de ne pas chercher la vérité à tout prix. Et je me demandais aussi si les harkis n'étaient pas présents dans le spectacle, parce que la notion... Et ça rejoint aussi ce que dit Sartre, d'appropriation culturelle est entrée en ligne de compte dans votre façon de concevoir ce récit.
Au moment de travailler sur la pièce, quand on a commencé à écrire notre structure dramaturgique, puisque c'est comme ça qu'on commence, et on arrive avec cette structure au début des répétitions. Et ensuite, les dialogues, les scènes s'écrivent avec les comédiens en plateau. Mais il a fallu faire des choix, puisque encore une fois, cette histoire est très complexe, très dense, et qu'on ne pouvait pas traiter de tout. Donc c'est vrai qu'on parle évidemment des Français d'Algérie, ce qu'on appelle aujourd'hui les pieds noirs, qui ont été contraints aussi à l'exil. On parle évidemment à travers le personnage de Karim de ce Français issu de l'immigration algérienne. On avait pensé évidemment traiter de la question des harkis, mais très vite on a fait le choix de ne pas en parler. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte que dans ce contexte-là de création, c'est-à-dire la Comédie française, le plateau du Vieux Colombier, donc à Paris, dans une des plus grandes institutions théâtrale, et puis parce que aussi Jade et moi n'avons pas de lien direct avec la guerre d'Algérie, on n'est pas issus de l'immigration algérienne, il fallait qu'on parte de notre position, de notre point de vue, de Françaises, qui avons aujourd'hui à porter un héritage qui est lourd et qui est constitué d'une multitude de récits. Et effectivement, on s'est beaucoup inspiré de l'histoire de Nazim Boudjena, le comédien qui interprète donc Karim, en accord avec lui. On a travaillé à partir de sa propre histoire. Mais à un moment, on ne pouvait pas justement se substituer à la parole des harkis. Personne dans la distribution n'était fils ou fille de harkis. Donc à un moment, ça nous semblait...
Usurpatoire,
oui, en tout cas incohérent avec ce mouvement-là dont parlait Jade, c'est-à-dire qu'à un moment, à tenter de se saisir de ce passé, du passé colonial de la France, mais il fallait pour cela rester à notre position, c'est-à-dire deux Françaises qui avons à se ressaisir de cette histoire-là. Quelque part, on avait à traiter d'un problème, pas seulement franco-algérien, mais franco-français, c'est-à-dire comment nous, on gère notre propre histoire. Et finalement, on voulait opposer au récit unique et univoque de Charles de Gaulle et donc à travers lui de tout le gouvernement français de l'époque, une multitude de récits, mais qui sont ceux des Français d'aujourd'hui, donc ceux qui ont en héritage aussi cette histoire.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Voilà, une multitude de récits, Julie Bertin, Jade Herbulot, ça suppose beaucoup de vérités et beaucoup de mensonges. Et on entendait beaucoup de choses à cette époque-là sur les radios françaises. 1958, par exemple, les éditions de Minuit publient La Question, livre du journaliste Henri Alleg, où il raconte comment il a été torturé en Algérie par les forces françaises.
À Paris, la police judiciaire a procédé à la saisie du livre d'Henri Alleg, La Question. Cette saisie a été effectuée sur commission rogatoire du tribunal militaire qui avait ouvert récemment une information pour, je cite, « participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale. »
Elle est malingre, elle est petite, elle boit de grands verres d'eau bénite. Tout en feuilletant le glossaire des mots interdits par
Deuxième Dieu. Son, 1961, 18 octobre 1961, nous sommes au lendemain d'une manifestation qui réunit plusieurs dizaines de milliers de manifestants algériens dans les rues de Paris au cours d'une journée tristement connue sous le nom de Journée portée disparue. Voici ce qu'on entend sur les ondes.
Hier donc, quelques premières manifestations en fin de matinée et dans l'après-midi ont lieu sur les grandes artères de Paris. Dans la soirée, un nœud important se forme vers le rond-point de la Défense, d'autres dans divers secteurs. Crise hostile, slogan FLN, voiture malmenée, retournée. Très vite, les heurts deviennent inévitables. Des coups de feu claquent chez les manifestants. Les forces de l'ordre ripostent. C'est le scénario dramatique. Bilan, 2 tués et aussi un Européen, un Français originaire du Finistère et demeurant à Rouen, qui était, on ne sait pourquoi, à Paris. Il est mort à l'hôpital Cochin. 64 blessés hospitalisés parmi les musulmans. Une douzaine de représentants du service d'ordre, dont 2 brigadiers et un officier de police blessés également. Soulignons toutefois que personne dans le service d'ordre n'a été blessé par balle. Plus de 11 000 musulmans appréhendés et conduits au palais des sports ou au stade de Coubertin. Le préfet de police devait faire savoir cette nuit qu'une grande partie d'entre eux serait refoulée dès cette semaine sur l'Algérie.
Voilà deux exemples de ce qui se passait à l'époque. Donc censure d'un homme qui dit la vérité, Henri Alleg, falsification des faits. Deux morts dans les rues de Paris le 17 octobre 1961. En fait, c'était 150 à 200 morts. Ça, vous en parlez pendant la représentation. Pensez ce qui a été impensé, et volontairement impensé par la nation française. Est-ce que ça vous a demandé d'en finir non seulement avec la censure, mais aussi avec ce que la censure génère, c'est-à-dire l'auto-censure?
Je pense que, voilà, avec Julie, je passe par un détour biographique, mais je crois qu'on a été plutôt des bonnes élèves dans l'école de la République, à bien étudier la version officielle de l'histoire, en tout cas qu'on nous présente dans les livres. Et je pense qu'il y a eu peut-être quelque chose comme une forme de lutte vis-à-vis de cette version officielle pour y inclure, comme le disait Julie tout à l'heure, d'autres récits plus violents et d'accepter que oui, l'État peut être violent, peut l'être avec l'aide des forces de l'ordre, peut l'être grâce à un préfet de police aussi comme Maurice Papon, peut l'être parce qu'il est complaisant aussi vis-à-vis d'une certaine forme de violence. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a observé aussi dans nos recherches, c'est comment le gouvernement français, à travers également ses représentants en Algérie, a été très complaisant avec les organisations d'extrême droite qui se formaient pro-Algérie française, qui avaient des modes d'action extrêmement violents avant l'OAS, hein, c'est-à-dire avant que ça devienne l'OAS. On a été très surprise de constater que il y a un discours vis-à-vis du communisme, des manifestations de gauche extrêmement méprisant de la part du pouvoir, et quand même une complaisance vis-à-vis de l'autre côté du spectre, vis-à-vis de l'extrême droite. Et en effet, ça n'est pas forcément évident d'accepter ça, d'accepter que ça fait partie de notre histoire. Nous, ça nous permet d'historiciser aussi la République, le régime républicain, et de comprendre que non, ça n'est pas une forme rigide, mais au contraire une forme qui peut être remise en question et qui aussi peut être organisée, dont les pouvoirs peuvent être organisés de différentes manières. Et ça, c'est vrai que on avait le sentiment de ne pas l'avoir appris.
Julie Bertin.
Oui, et puis je dirais que il faut aussi oser, et c'est pas toujours simple quand on a à travailler sur cette matière et historique et politique, malmener un petit peu ces personnages-là. C'est peut-être plus simple pour nous qui avons 30 ans de porter un regard critique sur effectivement le personnage de De Gaulle, de Debré, de René Brouillet qui est son directeur de cabinet. Il s'agit pas de faire des leçons de morale, ça serait bien trop facile 60 ans plus tard. Non, mais il s'agit peut-être de porter un regard un petit peu, oui, critique, parfois satirique. En tout cas, c'est notre manière à nous de décaler justement un petit peu l'histoire, en tout cas de Vous nous demandiez tout à l'heure comment on écrit à partir d'une matière historique. Et ben, c'est notre façon à nous pour justement avoir aussi un point de vue vis-à-vis de ce que l'on raconte. Pour nous, il nous semble important de prendre des libertés. C'est-à-dire qu'à la fois, notre travail est extrêmement documenté, mais pour autant, on ne fait pas du théâtre documentaire. Donc je crois qu'on est rigoureuse dans les arguments que l'on avance, et pour autant, ça reste bel et bien une fiction que l'on voit sur le plateau du Vieux Colombier. Donc oui, on prend des libertés. Par exemple, la scène du putsch, eh bien non, le général Chasles n'a jamais rencontré le général de Gaulle au bureau de l'Élysée, bien évidemment. Et ça, c'est un décalage que l'on fait sciemment. Oui, parfois, certaines scènes politiques prêtent à rire. Ça encore, c'est un décalage que l'on a souhaité. Mmh. C'est une façon pour nous, dans cet écart-là entre l'histoire et ce que l'on raconte et la manière qu'on a de le raconter au plateau, d'y intégrer notre point de vue.
De signer votre récit, oui.
Exactement.
Alors, preuve quand même que le sujet est sensible, c'est que, par exemple, le soir de la première à laquelle j'ai assisté, il y avait dans la salle Jean-Louis Debré. Ça se comprend, puisque son père, Michel Debré, qui était aux manettes avec De Gaulle à l'époque, est représenté sur la scène. C'est Éric Genovese qui le joue. Et il y avait aussi, et ça c'est moins habituel, Laurent Fabius, ancien ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous pensez que ce spectacle est encore, ou peut-être encore, une épine dans le pied du politique? Vous me disiez que Ségolène Royal est venue le lendemain.
Alors, une épine dans le pied, oui, certainement, puisqu'à un moment, on re-questionne les fondations de cette Ve République que chacun de ces hommes et femmes politiques, à un moment, a dû représenter lors de ses fonctions. Maintenant, je trouve ça plutôt sain, en tout cas une chose à saluer de leur part, de venir voir effectivement ce que l'on raconte et la façon qu'on a eue de le raconter.
Il y a dans le texte de programme une analyse extrêmement intéressante de Florence Thomas, qui est la documentaliste archiviste de la Comédie française, et qui explique que la Comédie française a une certaine rapidité à mettre en scène, salle Richelieu, des textes traitant de conflits se déroulant loin, et que quand il s'agit de conflits se déroulant à nos portes ou impliquant directement la France, c'est beaucoup plus long. C'est dû aussi à des délais de lecture par le bureau des lecteurs, à des choix de textes, à toutes sortes de choses de cette nature-là, mais tout de même, et ce temps de décantation, ou ce temps qui éloigne du fait de l'immédiateté, du fait ou de l'immédiateté de l'histoire, ça peut être un temps de décantation, donc d'éclaircissement, mais ça peut aussi être un temps d'opacification des faits. En l'occurrence là, vous étiez, vous, face à quelque chose constitué de multiples strates et donc très opacifié.
Oui, oui, et c'est vrai que le premier travail a été d'opérer des distinctions et d'être dans un processus de clarification. Je crois que c'est un peu comme si, si je prenais une métaphore un peu littérale, mais c'est comme si on avait une vitre vraiment extrêmement floue, assez sale, et qu'on était avec un petit chiffon et qu'à chaque fois on essayait d'y voir un peu plus clair, quoi, à travers la vitre. Et c'est vrai que le temps n'a pas été en faveur d'une clarification des événements. Il y a beaucoup de documents auxquels on ne peut pas avoir accès, justement sur la question du 17 octobre 61, il y a eu des procès, il y a eu des documents qui n'ont pas pu être communiqués. En effet, les archives sont également dispersées dans différents centres en France. Il y en a à Nantes, Aix-en-Provence, etc. Donc oui, il y a quelque chose que l'État français, dans la construction de son récit national, n'a pas saisi. Et au contraire, a mis littéralement sous le tapis. Et c'est une image qu'on utilise avec humour aussi dans le spectacle, à travers la métaphore de la fuite, pour raconter, là aussi avec légèreté, le pouvoir qui prend l'eau et qui, à force de vouloir dissimuler, cacher, au contraire, favorise un retour du refoulé. Et je crois que c'est de ça aussi dont on hérite avec Julie et des gens de notre génération, de nos âges. C'est la sensation qu'il y a un problème en France aujourd'hui, et c'est aussi de ça dont le spectacle est l'illustration ou la traduction. C'est il y a un problème en France dans le regard que l'État porte vis-à-vis de la population immigrée arabe, maghrébine, musulmane. Et pour nous, en étudiant cette question, on y voit les origines dans, évidemment, la conquête de l'Algérie dès 1830, etc., et dans l'instauration d'un système colonial extrêmement violent, symboliquement, dont, en effet, les pieds noirs qui ont vécu l'exil n'avaient pas nécessairement conscience au moment où il vivait au début du XXe siècle, etc. Nous avons vu comment l'État français a favorisé aussi les divisions au sein de la population en attribuant la nationalité française à la fin du XIXe siècle aux Juifs et pas aux musulmans. Et pour nous, notre démarche, c'était aussi là où justement cette question du rapport à l'islam, du rapport aux Arabes est rendue opaque par une multiplicité de discours à droite, à gauche, où on parle du voile, on parle de religion, on ne sait plus de quoi on parle. Nous, la solution qu'on a trouvée en tant qu'artiste, c'est effectivement d'aller chercher dans l'histoire, d'aller chercher dans pourquoi en France il y a ce problème. C'est un soulagement de comprendre aussi, même si on n'en saisit pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est un soulagement d'en comprendre au moins l'archéologie et de se dire que non, ça n'est pas une distinction, de perpétuer un discours justement colonial en disant c'est l'autre, l'autre est différent, c'est l'oriental, c'est l'étranger, etc. Pour nous, c'était aussi la nécessité de produire un autre discours aussi sur l'autre et sur, en produisant un autre discours sur nous-mêmes.
Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là, il s'agissait de les accepter. Et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité.
Voilà, on se quitte avec la voix d'Albert Camus, enregistrée en 1958 devant une communauté algérienne, en se disant que finalement la raison d'espérer qu'il appelle de ses voeux, c'est aussi la forme aujourd'hui que prend votre représentation, Julie Bertin et Jader Bulot. Je le rappelle, donc Les Oubliés Alger Paris, c'est au Théâtre du Vieux Colombier à Paris jusqu'au 10 mars, et si les hommes et femmes politiques s'y rendent, j'incite vivement toute la jeunesse aussi à aller voir ce spectacle. Elle en sortira extrêmement édifiée. Quant à nous, nous reprenons notre route et nous partons pour la scène nationale de Forbach, où nous attend au téléphone la secrétaire générale Laurence Langue.
Notre action sur le territoire est importante parce que souvent les gens qui habitent ici ont le sentiment d'être un peu oubliés, un peu loin de la capitale. Donc c'est d'autant plus important de pouvoir apporter une offre culturelle riche, dynamique, interpellante, qui rend les gens curieux et qui leur donne le sentiment qu'ils peuvent voir ici qui peut se voir dans les grandes capitales.
Être à la frontière de l'Allemagne vous conduit à privilégier les liens avec les artistes allemands ou avec les théâtres allemands?
Oui, on aspire aussi à être une scène frontalière, transfrontalière avec l'Allemagne. Donc on multiplie les accès aux spectateurs allemands, on surtitre nos spectacles, on essaye de trouver des spectacles qui peuvent comporter des entrées pour les personnes qui pratiquent une ou l'autre langue. Et puis on porte une attention particulière à la création germanophone, oui évidemment. Et notre préoccupation principale ici, c'est aussi de faire de notre position géographique une richesse.
On parle beaucoup et de plus en plus des scènes nationales comme devant s'acheminer vers une sorte de seconde vocation qui serait de devenir des tiers-lieux. C'est-à-dire des lieux où à la fois il y a de la proposition artistique, il y a des artistes qui circulent, mais des lieux aussi d'accueil, des lieux de vie qui peuvent accueillir toutes sortes de choses qui finalement ne sont pas nécessairement de l'artistique. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement qui se dessine vis-à-vis des scènes nationales, Laurence Langue ?
Que c'est très intéressant. Je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à sortir de notre modèle théâtral poussiéreux. Il faut qu'on prenne part à la vie de la cité. Il y a des mouvements qui partent de la base, qui partent des humains et qui montrent bien que le pouvoir finalement se redistribue autrement. Il faut que le théâtre arrive à prendre part dans ce jeu. On est encore au balbutiement de ça pour nous au Carreau. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment en tête. Et je pense qu'il faut, dans ce devoir d'ouverture, il faut que les théâtres jouent le jeu d'être des lieux de vie, des lieux de partage, au-delà de lieux simplement de diffusion de la culture qui viendrait d'en haut comme ça. Il faut que les choses arrivent par plusieurs entrées dans les théâtres.
Ni me faire changer d'avis, je n'ai pas cessé de peur.
pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Chouchane, Djergaillan, Jean-Guilain Mej, Vanessa, Nadjar, Joël Gaillou vous saluent. Bientôt 16h, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Lunon et son magazine de Cause à Effet. Excellent dimanche à vous tous.
Il dit qu'il a beaucoup changé, même si il m'a trahi et qu'il est prêt à se ranger. Mais je n'ai pas envie. Passer ma vie à me demander si c'est vraiment fini parmi tous ceux qui en comptent. Pourquoi je l'ai choisi? خليك على طول قصاد عيني.